France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous, en ce lundi 18 mars 2019, voici l'actualité du jour. Et 92 personnes étaient toujours en garde à vue cette nuit à Paris, 36 heures après les violences sur les Champs-Élysées, lors du 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, des violences donc. Hier soir, le Premier ministre Édouard Philippe a admis des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité parisien. Il dit avoir identifié des insuffisances et fera donc des propositions d'adaptation ce matin, à partir de 11h30 au président de la République. Un peu plus tard dans la journée, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, tiendra lui une réunion pour évaluer les dégâts engendrés par ces violences chez les commerçants parisiens. Enfin, demain, mardi, Bruno Le Maire et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner seront tous les deux amenés à s'expliquer devant le Sénat et sa commission des lois et des affaires économiques. Des similitudes claires dans les défaillances qui ont provoqué les récents crashs de Boeing 737 MAX. Voilà ce qui ressort de l'analyse des deux boîtes noires de l'avion d'Ethiopian Airlines. Avion qui s'est écrasé quelques minutes après son décollage d'Addis Abeba il y a 8 jours maintenant. 157 personnes étaient mortes. Il y a 5 mois, c'était un autre 737 MAX de la Lion Air, cette fois qui s'était abîmé. Et dans les deux cas, c'est un dysfonctionnement du système de stabilisation en vol qui serait en cause. Boeing affirme être sur le point de finaliser un correctif de ce système. La police australienne a perquisitionné cette nuit des habitations en lien avec l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande. L'auteur présumé des attaques dans 2 mosquées est australien. Il a été inculpé de meurtre et sera maintenu en détention jusqu'à sa comparution en début avril. On apprend ce matin qu'il souhaite assurer sa propre défense. Le dernier bilan de l'attentat est de 50 morts. Et puis le cardinal Philippe Barbarin sera reçu ce matin par le pape François. L'archevêque de Lyon lui présentera sa démission. Il y a 10 jours, il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs.
Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, nous vous proposons cette semaine une série consacrée aux langues. On parlera de francophonie bien sûr, des politiques pour la promouvoir, mais aussi de ce qu'elle peut représenter en termes de domination. On s'intéressera également au processus de disparition des langues, aux alphabets qui peuvent être au cœur de conflits identitaires, sans oublier l'intelligence artificielle qui pourra accomplir le rêve d'une communication instantanée et universelle.
Culture Monde, le magazine sans frontières, de lundi à vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, Toufik Hakem vous accompagne pendant une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Jean Tellet sort un nouveau roman qui a pour titre Garalou. C'est aux éditions Julliard et c'est l'histoire d'une gamine de 12 ans, Lou donc, qui a un drôle de pouvoir, un drôle de don. Dès qu'elle souhaite du mal à quelqu'un à voix haute, eh ben cela se produit. Bonjour Jean Tellet.
Bonjour.
Le Réveil culturel est une émission préparée avec Maëlle Ray et Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la technique Philippe Mercher.
Le Réveil culturel. Lundi, livre.
Alors cette fois-ci, ce n'est plus l'histoire, ce n'est plus les intrigues de la France médiévale ou de la France du Roi Soleil. On est dans un futur proche d'ailleurs, hein, puisqu'il y a quelques indices qui nous permettent de dire que cette histoire, elle n'est pas si loin que ça dans le futur.
Oui, non, je crois, c'est un futur indéterminé et c'est dans un endroit, dans un, et ça se passe dans un pays qui n'est jamais nommé. Et d'ailleurs, dans ce roman, tous les pays dont on parle, il n'y en a aucun qui a un nom de pays actuel. Donc on se dit qu'entre maintenant et l'époque du livre, il y a dû y avoir de gros changements. Et puis moi, j'avais envie, après avoir écrit pas mal de romans historiques, ou bien un truc comme Une respiration, qui était aussi que des histoires vraies, de retourner à la fiction. Et depuis le magasin des suicides... J'en avais pas réécrit et autant quand j'écris des romans historiques, il faut absolument beaucoup se documenter. Il faut pas se gourer, il faut pas se, dire que le 18 mai 1517 c'était
beau.
Un mardi, alors que les historiens tout de suite, mais comment il peut dire ça, qu'il est con, c'était un jeudi et tout, donc faut faire super gaffe. Tandis que là, dans une fiction, on fait ce qu'on veut, et ça fait du bien aussi. Ouais.
Et là, vous faites avec une jeune gamine de 12 ans, Lou.
Oui, qui... et toujours par rapport au magasin des suicides.
Il vous fallait une fille cette fois-ci.
Voilà, qui racontait l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Alan dans le magasin des suicides, qui avait une particularité, c'est qu'il apportait le bonheur dans un monde de malheur. Et depuis longtemps, je me disais, j'aimerais bien faire le pendant de ce livre, mais cette fois-ci avec une petite fille. Et puis je cherchais des idées, puis je trouvais pas. Et l'idée m'est venue très curieusement, c'était pendant que je faisais la promo de mon précédent roman, Entrée dans la danse, j'étais dans une librairie de province et à un moment le libraire vient me voir en disant « Ah Jean, il y a un problème, vous avez votre train à 18h30, mais regardez tous les gens qui attendent et alors qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai dit « Ben qu'est-ce qu'on fait moi, il faut que je rentre ce soir, demain je vais dans une autre ville et tout. » Il dit « Oui mais il y a un autre train à 20h. » Oh bon, s'il y a un train à 20h, je vais prendre celui-là. Je prends le train de 20h, je me trouve en début de compartiment. Et là, un contrôleur arrive, il me demande mon billet, je lui sors, tout ça, il regarde, et puis il continue de demander des billets aux autres passagers. Et tout d'un coup, je veux lui poser une question sur mon voyage du lendemain. Et je le rappelle, je fais « Monsieur, je peux vous poser une question ?» Il revient me voir, je lui pose ma question, je sais même plus laquelle. Et il me regarde, il me dit « Je peux voir votre billet ?» Je lui dis « Mais je viens de vous le faire voir. » Il dit « Oui, ben faites-le voir encore. » Je lui refais voir. Il me dit « Vous n'êtes pas dans le bon train. Vous auriez dû prendre le train 18h30. » Je fais « Ouais, d'accord. Et alors ?» Il dit « Ben je vais vous mettre une amende. » Et là, je lui dis « Vous êtes quand même gonflé. Je vous montre mon billet, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle pour avoir un renseignement auquel je n'ai toujours pas la réponse. Et vous allez me coller une amende ?» Il me dit « Oui. » Je dis « Et si je veux pas payer ?» Il me dit « Ah ben c'est pas compliqué. » «
Mais vous allez changer votre billet, Jean-Télé. »
Mais oui, mais entre 18h30 et 20h.
Qui vous invite.
Et je lui dis « Et si je veux pas payer ?» Il me dit « Ben c'est pas compliqué. J'appelle la police, à la prochaine gare, ils viennent vous chercher. » Bon, je paye. Et au moment où il va pour partir, m'arrive un truc dans la tête qui m'est jamais arrivé, que j'ai jamais dit à personne. Au moment où il se retourne, je le rappelle, alors il se retourne vers moi, je dis « Monsieur, écoutez-moi bien, regardez-moi bien. Je vous souhaite un très grand malheur pour bientôt. Et si ça arrive, au moment où ça se produit, rappelez-vous de moi. » Et là, curieusement, c'était une ânerie que je disais, j'ai senti que ça y avait fait vraiment un truc. Et il m'a dit « Ah ben c'est gentil et tout ». Et au lieu de reprendre le bon sens qu'il avait pris pour demander les tickets, il est reparti dans l'autre sens et je ne l'ai plus jamais revu du voyage. Et tout de suite, je me suis dit « Mais c'est ça !» La spécialité que je cherche pour la petite gamine, pour le roman que je veux faire. Et tout de suite, un tas de trucs me sont arrivés. Je me suis dit, ça se passera à la même époque que le magasin des suicides. Elle habitera dans une tour qui s'appellera la tour de l'incendie. Ça sera au bord de l'avenue du Bonheur. En face, il y aura le bar des sanglots. Son pouvoir va être opéré. Parce qu'à chaque fois qu'il avait souhaité du malheur à quelqu'un, ça va se produire. Ça va se savoir à la présidence du pays. Qui va décider de l'utiliser comme arme absolue. Je suis arrivé à la gare, j'avais la moitié du livre dans la tête. Ce qui fait que ce contrôleur, au lieu de lui en vouloir, je le remercie. Et maintenant, où moi je vais repartir beaucoup en province et tout, si ça se trouve, je vais le retrouver. Et j'espère que cette fois-ci, il va pas me réclamer des droits d'auteur.
Gare à Lou. Voilà, c'est le titre de votre roman, Jean Telet, parce qu'une fois qu'on découvre que cette jeune collégienne a un don, c'est-à-dire de pouvoir non seulement se défendre, mais se venger sur les gens qui l'embêtent, pour dire les choses comme ça, elle va être effectivement réquisitionnée, pour ne pas dire enlevée,
mais ouais,
par les pouvoirs publics, par l'État, par le président de ce pays imaginaire et ses trois chefs de guerre. Alors, il l'enlève en essayant de restituer tout sa chambre, son entourage, pour qu'elle soit très à l'aise, parce qu'ils veulent l'utiliser effectivement comme arme de destruction massive, ça c'est le mot que l'on puisse dire.
Oui, oui. Et sauf que ça va pas bien se passer, parce que à 12 ans, ben, elle rentre en crise d'adolescence. Et au bout d'un moment, elle se demande si c'est si bien que ça de souhaiter du mal aux gens et tout. Et commence à en avoir marre. Et les trois chefs de guerre qui doivent s'occuper d'elle nuit et jour, lui faire à manger, lui laver son linge, s'occuper d'elle complètement et lui transmettre les ordres de la présidence, elle va devenir vraiment pénible. Et assez vite, les trois
chefs... Même s'ils s'en servent bien, hein, elle rend quelques services.
Ah, hein. Elle rend des services absolument formidables. Elle règle des problèmes, mais alors elle les règle de chez régler. Mais au bout d'un moment, les trois chefs de guerre vont quand même se dire qu'ils regrettent le bon temps de la bombe atomique, qui était autrement plus facile à manier que cette gamine pleine d'acné et à appareil dentaire qui, elle, se révèle être absolument ingérable.
Est-ce une fable, Jean Tellet ?
Oui, c'est exactement ça. C'est vrai, c'est une fable ou un conte futuriste et un peu fantastique. Et moi, je sais pas bien dire ce que ça veut. Moi, je comprends pas bien mes livres. Je les comprends que quand des gens les lisent et m'en parlent. Autrement, je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas ce que je veux dire quand j'écris un livre.
Vous avez la fin avant d'attaquer le début.
C'est pratiquement. Comme histoire. Oui. J'avais la fin. Ouais. Et je voulais que ça soit une vraie fin qui, en même temps, n'est pas complètement une fin, mais en tout cas qu'on retombe sur les pieds. Puis surtout, j'avais envie d'emmener les gens qui liraient ce livre, qui liraient la première page, ils aient envie de lire la deuxième et les prendre par la main et les emmener ailleurs dans une histoire complètement barrée et tout, dans un autre monde. Enfin, j'avais envie de faire rêver les gens, quoi.
C'est un roman édité chez Julliard, un roman classique, mais avec des images à l'intérieur.
J'aime bien ça, c'est mon passé de dessinateur de bande dessinée. Ouais. Et maintenant, comme techniquement, on peut facilement mettre des images. Puis moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup lire des Jules Verne, des romans comme ça du 19e siècle, où il y avait des illustrations. J'aimais bien ça. J'aimais bien ça, ça me plaisait
beaucoup.
C'est
vous qui avez choisi les illustrations?
Oui, c'est même moi qui les ai faites. C'est... Comme j'étais dessinateur, je refais ça.
Jean Tellet, quand on écrit un livre, c'est de la pure fiction, c'est une fable, avec un côté fantastique, on est dans un futur pays imaginaire, est-ce que, une fois qu'on est dans cette bulle, on est quand même rattrapé par l'actualité? On a quand même envie qu'il y ait de temps en temps quelques échos, quelques liens, quelques fils avec ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Et par exemple, là, c'est notamment par rapport à la pollution, parce que ça se passe dans un pays qu'on connaît pas, donc, mais où on apprend que les arbres tels les chênes, les hêtres, les frênes, tout ça, ont disparu. Il n'y en a plus. La capitale de cette ville où se passe cette histoire, il y a par moments des odeurs de fleurs d'orange. Et on se dit, tiens, ça doit être le vent du sud. Et comme c'est le vent du sud, les tables du bar des Sanglots ont de la poussière de sable. On apprend qu'il n'y a plus de source dans le pays. Et que même le pays est en négociation avec un pays que j'ai inventé qui s'appelle l'archipel des mille cavernes, qui revend ses réserves d'air pur et donc ça c'est des rapports à ce qu'on est en train de vivre avec l'écologie et des choses comme ça, quoi.
Et la monnaie mondialisée, puisque dans ce futur indéterminé on paye en yens euros.
Voilà, exactement. Et le président est de type chinois, il s'appelle Hannibal Chanchou, et puis son palais présidentiel qui ressemble beaucoup à l'Élysée se retrouve à l'intérieur d'une boule à neige, ce qui fait que quand les voitures arrivent pour les convois officiels, pour les rendez-vous, tout ça, il y a des particules blanches au sol qui s'élèvent à l'intérieur de la boule à neige, et ça ressemble donc vraiment à une boule à neige. Et ça aussi, on dit souvent que le pouvoir, les gens de pouvoir vivent dans une bulle et sont pas au contact de la réalité. Et là, le président de la République, il est réellement dans dans une bulle à l'intérieur de sa boule à neige.
Les autres personnages, les militaires, Robert, la mère de Lou, ce sont des caractères qui sont venus avec l'intrigue, avec l'histoire. Une fois que vous aviez cette jeune gamine de 12 ans, une fois que vous avez que je lui avais donné ce don qu'elle a, comment viennent se greffer les autres personnages?
Oui, la mère elle ressemble à des... Moi, quand je vais en province, je parle beaucoup aux gens. J'ai rencontré beaucoup de femmes seules qui élèvent un enfant et des fois qui sont très pauvres. Et tellement pauvres qu'elles me racontent que, par exemple, elles se sacrifient de repas pour nourrir leur enfant, qu'elles s'habillent qu'avec des vêtements que des collègues prêtent et tout ça. Et j'avais envie que la mère de Lou, Roberte, soit un beau personnage et vive et raconter son chagrin parce que sa fille est kidnappée par l'État. Et on lui dit, on a pris votre fille et on ne sait pas quand on vous la rendra.
Mais on va vous payer.
Mais on va vous aider. Voilà. Ouais. Et voilà.
When I was very young, the world was younger than I. As merry as a carousel. The circus tent was strung with every star in the sky. Above the ring I loved so well. Now the young world has grown old. Gone are the tinsel and gold. Sit there and count your fingers. What can you do? Old girl, you're through. Sit there and count your little fingers. Unlucky little girl blue. Sit there and count the raindrops falling on you. It's time you knew all you can count on are that fall on little girl blue.
Voilà une chanson parfaite pour les petits matins de France Culture et pour le réveil culturel de Jean Tellet pour à l'occasion de la sortie de Gare à Lou. Alors Lou, on a parlé de ses dons, on a parlé de comment elle va devenir un personnage stratégique pour ce pays imaginaire, comment on va l'utiliser. Comment elle va s'en sortir, parce qu'elle va s'en sortir. Mais on peut dire aussi que cette gamine, en pleine crise d'adolescence, elle a aussi bon goût, puisque elle peut réciter les poèmes d'Arthur Rimbaud. Ça tombe bien, Chantelet. Nous sommes en plein printemps des poètes. C'est les 20 ans de cette manifestation.
Ouais.
Vous avez tenu à ce qu'il y ait du
Rimbaud. Oh ouais. Et à un moment du Aragon aussi.
Et Aragon.
Parce que la serveuse du bar des Sanglots accoste les gens qui passent sur le trottoir en leur disant deux verres de Rimbaud, d'Aragon, j'ai des sanglots, en voulez-vous?
On pourrait dire que c'est pour des raisons commerciales, alors que Lou, récitant le dormeur Duval, on est surpris.
Oui, mais elle
est très surprenante d'ailleurs.
Tout ce que celui qui lui apprend le dormeur Duval, tout ce qu'il lui pose comme question, c'est sachant que ce poème a été écrit en 1871 et qu'on suppose que le dormeur Duval est un Français, quelle arme l'a tué? parce qu'il s'intéresse qu'aux armes. Alors elle, la réponse est un fusil de raise, un canoncier, machin, tout ça, très efficace, opposé au chasse, au fusil chasse-pot des Français. C'est-à-dire que même quand c'est pour un poème de Rimbaud, ça n'est que technique et que sur les armes.
Mais pour vous, venant de votre part, Gentelet, c'est pas par hasard que vous avez choisi ce poème.
Rimbaud, c'est ce que je crois que c'est Claudel qui disait ça, c'est au-dessus de toute littérature, bien sûr, c'est fabuleux. Rimbaud, Verlaine, Villon,
c'est notre trio de poètes. Ils sont où dans votre univers, c'est-à-dire ils sont présents dans votre maison, je suppose,
tout le temps? Oui. À un moment, j'avais même eu une lettre de Rimbaud que j'ai revendue. J'ai le contrat des Fêtes Galantes de Verlaine, et puis finalement je me débarrasse de tout ça parce que ça sert à rien, mais oui, ça c'est ce sont mes trois phares, ouais.
Alors comment vous avez goûté à cette poésie là, qui vous a donné ce plaisir?
C'est par hasard,
en dehors de l'école,
quand j'étais au collège, un midi chez mes parents, j'entends une chanson à la radio qui s'appelait C'est extra. Je trouvais ça beau. Et en retournant à l'école, j'ai entendu un nouveau chanteur à la radio qui chantait une chanson qui s'appelle C'est extra, un nouveau chanteur qui s'appelle Ferré, j'ai retenu le nom. Il dit, oh là là, c'est pas du tout, mon copain dit, c'est pas du tout un nouveau chanteur, c'est un vieux chanteur. D'ailleurs, mon frère en a des disques et j'en filerai un. Et il me file un disque, mais sans la pochette pour pas que son frère s'aperçoive qu'il l'avait volé. J'écoute ça, ce 33 tours, et je trouve les paroles mais hallucinantes.
Et je me dis, comment il a écrit ça?
Et au bout d'un moment, je regarde le crédit des chansons et je m'aperçois qu'en fait, c'était un double album où Ferré chantait Rimbaud et Verlaine. Et c'est comme ça que j'ai découvert Rimbaud et Verlaine, et je suis tombé dedans grâce à Ferré, qui a chanté ça extraordinairement bien.
Et d'où vous vient cette envie d'écrire, ce plaisir? Comment vous l'appelez? Plaisir? Passion?
Ouais, plaisir, ouais.
Et c'est venu, ce que je voulais dire, Gentelet, c'est venu d'une envie de raconter des histoires,
oui.
Ou bien vous prenez du plaisir à écrire, à jouer avec les mots?
Non, de raconter des histoires, et d'ailleurs, j'ai eu envie de faire la même chose que Ferré avait fait avec moi, avec son double album sur Rimbaud Verlaine, en écrivant au Verlaine, je François Villon, et puis avant Rimbaud pour Rimbaud. Moi aussi, j'avais envie de faire mon boulot de passeur, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, parce que, pareil, plein d'adolescents que j'ai pu rencontrer m'ont dit que, ben, sans moi, ils auraient pas connu ces trois types-là, et je trouve que c'est bien que, successivement, chacun dans son art, Ferré dans la chanson, moi avec la littérature.
Je vous pose cette question parce que quand même, quand vous avez commencé à travailler pour le cinéma, pour la télévision,
la bande dessinée,
la bande dessinée,
et c'est adapté maintenant. Jean-François Villon a été adapté en bande dessinée, par exemple, et tout, et c'est agréable de à des lecteurs de bande dessinée de leur faire découvrir un type comme Villon, quoi.
Votre dernier roman, Gentelet, Gare à loup, fait moins de 200 pages, et cette fois-ci c'est de la fiction, donc pas de recherche, pas d'archives. Ça vous prend beaucoup de temps pour...
Non, celui-là, j'en reviens pas. Je l'ai écrit en 4 mois, ça m'est jamais arrivé d'écrire un roman en 4 mois.
Généralement, ça prend plus de temps.
Ça peut prendre un an minimum, ou bien pour des romans comme Le Montespan, ou Jean-François Villon, ou Overlaine, c'est 2 ans. Mais là, tout est venu. Mais c'était même assez... pas miraculeux, parce que j'aime pas dire ce mot-là, mais étonnant, parce que je suis parti comme ça, j'ai tiré un fil et tout le roman est venu, et j'avais l'impression que c'était le roman qui me dictait ce que je devais écrire, ce qui fait que je disais, quand j'avais mon éditeur au téléphone, je lui dis, en fait tu me payes comme écrivain, mais en fait je suis dactylo, c'est le livre qui me dicte le livre. J'ai l'impression de pas être tellement responsable de ces livres. Il est venu comme ça. C'est un sentiment
assez
étrange.
Vous écrivez où, Gentelet?
À mon bureau. J'ai un bureau à Paris et un bureau en Bretagne, dans une très vieille maison en Bretagne. Une maison construite l'année où Shakespeare écrivait Hamlet. Et ça me plaît. Et mes deux bureaux sont disposés exactement pareil, avec le même mobilier, tout. L'imprimante est au même endroit, l'ordi au même endroit, les crayons, ce sont les.
Vous n'avez pas les mêmes vues.
Et non, mais si, parce que c'est face à des murs et il y a des Velux dans les deux bureaux, ce qui fait que quand je passe de l'un à l'autre, je suis pas déstabilisé. C'est tout est exactement.
Alors,
exactement
est-ce que pendant ce temps-là, c'est-à-dire est-ce que pendant ce laps de temps où vous êtes absorbé par l'écriture d'un roman, gentelé, vous avez le temps, vous, pour lire d'autres romans, d'autres classiques.
Mais non. Je lis pas de romans. J'en lisais pas avant d'en écrire et je n'en lis toujours pas. Je m'oblige à en lire entre deux romans. Et par exemple, là, quand j'ai fini Garalou, ça faisait longtemps que je connaissais évidemment l'expression la peau de chagrin et tout, et je trouvais que c'était une très bonne idée, le roman de Balzac, et j'ai voulu le lire. J'ai trouvé ça emmerdant comme tout. Et puis, j'ai entendu qu'il y avait un autre roman que j'avais évidemment jamais lu. C'est 1984, et j'avais entendu qu'il y avait une nouvelle traduction et
donc
tout.
Donc, vous avez pris la nouvelle traduction.
Je l'ai lu, et alors ça, j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé ça formidable, ce roman. Mais je veux pas en lire, parce que moi qui ai tellement aimé la poésie, jamais je n'écrirai un poème. Le premier vers que j'écrirai, je me dis, bon, bah, c'est pas la peine. Après, Rimbaud, Verlaine, Villon, écrire ça, c'est vraiment pas la peine. Donc, je veux pas lire de romans parce que j'ai peur que ça me coupe les pattes et me dire, s'il y a des mecs qui écrivent comme ça, c'est vraiment pas la peine que je prenne un crayon pour écrire.
Mais plus jeune,
je préfère rester vierge comme ça.
Non, mais avant de vous lancer dans la carrière d'écrivain, vous étiez lecteur de romans, de livres
Non. Et la première fois que j'ai vu l'éditrice qui est, parce que c'est moi, c'est une éditrice qui a décidé que je vais écrire des romans. Elisabeth Gilles, elle s'appelait, parce que maintenant elle est décédée. Quand je travaillais à la télé, un jour, elle m'a appelé à Canal en disant, ça fait des années que je vous entends, ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un écrivain qui ne le savait pas. Venez, je vous signe un contrat. Et c'est comme ça que c'est venu. Et quand elle m'a dit, mais je voudrais que vous écriviez un roman, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, mais j'en lis pas, moi, des romans. Et puis elle m'a convaincu, et j'ai écrit un premier, et ça m'a vachement plu. Et depuis, je ne veux plus faire absolument que ça, ouais.
Parce que vous avez un don, de raconter des histoires,
mais
c'est
oui,
ça
je me sens bien, ça me donne envie de raconter des histoires aux gens, c'est comme si je leur chuchotais un truc à l'oreille, une histoire, comme on dit ça aux enfants avant qu'ils s'endorment. Je trouve que c'est un joli métier de raconter des histoires aux gens.
C'est d'autant plus un joli métier que vous faites partie de ces privilégiés qui pouvaient vivre avec votre plume.
C'est incroyable.
Gentelet.
Ouais. Alors qu'il paraît qu'on n'est qu'une vingtaine en France qui pourrait vivre que de ça, et moi je refuse tout ce qu'on propose. On propose des trucs incroyables. Je refuse tout. Je veux plus faire que ça et avoir la chance de vivre, et en plus très confortablement, rien qu'en racontant des histoires aux gens. Mais c'est un pied total, ça. Et le matin, on se lève quand on veut. Écrivain, il n'y a pas de réveil. Je travaille au rythme que je veux. Je fais strictement ce que je veux. Personne ne me donne un ordre. Et j'en vis très bien.
Et vous aimez la rencontre de... aller à la rencontre de vos lecteurs,
oui,
Gentelet?
Oui, parce que quand j'écris, je ne vois strictement personne. Mais je m'isole totalement. Je vois plus un copain, plus rien. Je passe des fois des journées entières où je dis pas un mot à un être humain. Et au moment de la sortie d'un livre, j'ai l'impression de vivre un mouvement d'essuie-glace. Tout d'un coup, j'accasse, je parle à des gens comme vous, à des lecteurs, tout ça, lors de dédicaces dans les librairies, les salons du livre. Je jacasse. Et au bout d'un moment, je sens que j'ai besoin de me refermer et de repartir dans un roman, et j'alterne comme
Je suis sûr qu'il y a 1000 idées qui germent dans votre imaginaire et qu'il y en aura bien une qui va pousser.
Mais pour le moment, rien du tout.
Ah bon?
Mais ça arrive toujours par hasard, moi, mes idées de roman, comme celui de Garalou, tout ça, parce que j'ai pris le train et que j'avais pas le bon billet.
Gentelet, merci d'être passé. Je rappelle
Moi qui vous remercie. Et puis, elle est drôlement agréable, cette émission. Elle est très bien animée, en plus, cher monsieur.
Merci beaucoup. Cette émission, vous pouvez bien sûr la réécouter en passant soit par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast, en passant entre autres par franceculture.fr. Garalou de Gentelet est édité par Julliard. Bonne matinée.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. À lire dans ce nouveau numéro, À quoi bon la littérature dans un monde d'images ? De Christine Angot à Naomi Wallace, plus de 50 écrivains répondent. Un dossier exceptionnel. Au sommaire également, une sélection de 30 romans essentiels pour comprendre notre temps, La crise sociale par l'historien Gérard Noiriel, une masterclass avec Griette Satouf et un grand entretien avec Alain Touraine. Retrouvez Papier en kiosque et en librairie. Chaque jour à 9h05, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Alors qu'à la fin de la semaine s'ouvre à Paris, à la Grande Halle de la Villette, une grande exposition consacrée à Toutankhamon, la fabrique de l'histoire vous propose de revenir sur l'histoire de cette Égypte antique, sur ses frontières chronologiques, sur ses frontières temporelles, géographiques, mais également sur ceux qui dirigeaient cette Égypte antique, qu'ils soient des scribes ou encore des pharaons.
La fabrique de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'exécutif promet de nouvelles mesures sécuritaires après les violences qui ont éclaté sur les Champs-Élysées samedi à Paris. Emmanuel Macron attend des propositions en fin de matinée tout à l'heure. Nous verrons en quoi elles peuvent consister. Nous entendrons aussi un économiste à l'aube d'un débat entre le président de la République et près de 70 intellectuels. Un intellectuel justement et un économiste que vous entendrez, lui, est assez critique sur l'exercice. Et puis, quelle réponse apportera l'avionneur américain Boeing aux défaillances relevées sur ses appareils 737 Max, des défaillances similaires lors de 2 crashs en moins de 5 mois, vous le comprendrez. Le Premier ministre Édouard Philippe présentera donc ce matin des propositions relatives au maintien de l'ordre lors des manifestations, des mesures après les dysfonctionnements constatés samedi à Paris sur les Champs-Élysées lors de la mobilisation des Gilets jaunes. Des dysfonctionnements, Édouard Philippe le concède. Après avoir reçu les ministres de l'Intérieur et de la Justice hier, il évoque des insuffisances dans le maintien de l'ordre. Mais derrière les mots, le problème n'est pas simple à résoudre, Jean-Philippe Deniau.
Première option, un changement de stratégie du maintien de l'ordre, passer d'une présence défensive et statique à une présence offensive et mobile, repérer et aller au contact des manifestants les plus violents avant qu'ils ne commettent des dégradations. Mais cette option nécessite une présence policière encore plus importante et surtout, elle entraînera forcément un nombre considérable de blessés, voire un risque de décès. L'efficacité du dispositif s'en trouverait une nouvelle fois remise en cause. Deuxième option, interdire de manifester sur les Champs-Élysées et sanctuariser l'avenue samedi prochain, mais cette solution risque tout simplement de déplacer le problème dans un autre quartier de la capitale, sans compter qu'il est plutôt difficile d'interdire un rassemblement qui à la base, comme c'était le cas samedi dernier, n'est pas autorisé. Plus radical, le gouvernement pourrait déclencher l'état d'urgence, comme il l'avait fait pendant les émeutes de 2005, sauf qu'aujourd'hui, ce serait politiquement risqué d'utiliser contre ce qui reste un mouvement de gilets jaunes des mesures qui ont été déclenchées contre le terrorisme.
Et les adaptations au dispositif de sécurité seront donc présentées tout à l'heure à partir de 11h30 à Emmanuel Macron. Un peu plus tard, à 16h30, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, tiendra lui une réunion à Bercy avec des organisations patronales, des représentants des commerçants et des assureurs. Notons que cette nuit, 92 personnes se trouvaient encore en garde à vue. 97 autres doivent être présentées à la justice en vue de suites judiciaires. Un peu plus tard dans la journée, tout à l'heure, Emmanuel Macron va débattre avec 65 intellectuels. À partir de 18h30, cet échange dans le cadre du grand débat national, cet échange sera retransmis en direct sur France Culture. Seront présents entre autres des philosophes comme Marcel Gauchet, Frédéric Worms ou Myriam Revaud-Allonne, des sociologues également comme Michel Vivorca, Luc Boltanski. On y verra aussi le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, le géographe Hervé Lebras, l'historien Benjamin Stora, des économistes également comme Daniel Cohen. Laurent Davzy, lui, ne va pas participer à ce débat à cause d'un empêchement, mais s'il avait pu, il ne pense pas qu'il s'y serait rendu et il s'explique.
A priori, on m'invite à un débat à la présidence de la République, où j'y vais avec plaisir, ça m'est déjà arrivé. Bon, simplement, là, quand j'apprends qu'il y a pratiquement 70 qui vont être présents, ça devient un peu plus compliqué, c'est-à-dire que dans un débat, c'est une foire d'empoigne. Si chacun parle 3 minutes, déjà, il y en a pour 3 heures. Donc, c'est une soirée quand même, hein, c'est pas une semaine de réunion. Si on est 70 à vouloir passer un mot, sachant que les intellectuels ou ceux qu'on considère comme tels sont quand même caractérisés par un fort narcissisme quand même assez marqué, vous en mettez 70 dans la même salle, c'est effrayant. Je vois pas ce qui peut sortir de solide, d'utile, de clair, de la réunion de tant de gens sur aussi peu de temps, et simplement sur le mode de la prise de parole, les prises de parole qui par définition sera extrêmement courte. Donc moi, petit comité avec plaisir, mais ce genre de grand messe où tout le monde doit pouvoir s'exprimer, tout le monde veut s'exprimer, pour qu'on sache que chacun s'est exprimé, moi, sans moi.
Un économiste interrogé par Stéphane Robert, le débat entre Emmanuel Macron et ses intellectuels sera retransmis à partir de 18h30 ce soir sur France Culture en direct. Le projet de loi santé arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ce lundi. 23 articles au total dont on connaît les grandes lignes. Le gouvernement veut supprimer le numerus clausus, ce seuil maximal d'entrée en deuxième année de médecine. Il crée également des hôpitaux de proximité. Un autre volet de la loi est lui consacré au numérique et encadrera notamment la télémédecine. Des actes qui ont augmenté l'année dernière, le racisme et surtout l'antisémitisme. Cette semaine donc, l'éducation nationale met en place des actions, des événements pour sensibiliser les élèves de toute la France à ce sujet. Semaine spéciale à l'école. Jacques Fredge est le directeur du mémorial de la Shoah à Paris, accueillant régulièrement un public jeune. Il rappelle que l'antisémitisme contemporain n'est plus seulement idéologique.
Nous, on est confrontés à des jeunes qui, le plus souvent, sont antisémites, mais ils l'ignorent. La plupart du temps, ce sont des jeunes imprégnés de stéréotypes et qui vous expliquent calmement les choses en reprenant un certain nombre de poncifs, de préjugés qu'ils ont entendus, qu'ils colportent ou auxquels ils croient ou qu'ils ont lus ou vus sur Internet et donc ils les rapportent. On ne sent pas un antisémitisme idéologique porté par des porte-flingues qui ont des comptes à régler. C'est plutôt l'ignorance, la méconnaissance, le mépris ou alors la jalousie. C'est-à-dire que l'antisémitisme est nourri par l'idée que les Juifs prennent aux autres. Et il y a ce fantasme. Et en fait, c'est en cela que je pense que l'éducation a un rôle à jouer, parce que à ce stade-là, à ce niveau-là, on peut faire la différence.
Jacques Fredge, directeur du mémorial de la Shoah à Paris, interrogé par Soazic Bourg. Il existe des similarités claires entre le crash d'Ethiopian Airlines il y a 8 jours et celui de Lion Air en octobre dernier au large de l'Indonésie. La ministre éthiopienne des Transports l'affirmait hier soir. Elle a évoqué les données des boîtes noires de l'appareil qui sont analysées en France. Dans les deux cas, dans l'Ethiopian Airlines et sur le Boeing de Lion Air, c'est un appareil 737 MAX qui est impliqué, appareil cloué au sol dans de nombreux pays depuis une semaine maintenant. L'avionneur américain, lui, tente toujours de faire bonne figure, Loïc Loury.
Deux catastrophes aériennes en à peine 5 mois pour le 737 MAX. La réponse de Boeing pourtant n'est pas à la hauteur. Le constructeur américain a perdu 25 milliards de dollars de capitalisation mais semble ne pas prendre la mesure de la crise de confiance qui s'est installée. Lundi dernier, Boeing n'a ainsi publié qu'un bref communiqué, pas de mea culpa, pas d'explication. Une réponse bien faible face à l'ampleur du drame et face à l'interdiction de vol dans de nombreux pays du modèle d'avion mis en cause. En coulisses, l'avionneur a préféré s'adresser aux autorité de régulation pour empêcher les États-Unis de bloquer eux aussi l'appareil, mais sans succès. Boeing doit également modifier le système de stabilisation mis en cause dans l'accident de Lion Air en octobre dernier. Mais cela ne présage pas, assure le constructeur, des causes du drame de l'Ethiopian Airlines. Difficile à croire après les premières expertises. Bref, une gestion désastreuse et l'image d'une compagnie arrogante qui va pourtant devoir rendre des comptes. L'une des commissions de la Chambre des représentants envisage en effet d'ouvrir une enquête sur la certification du 737 MAX, tout cela sans compter de possibles actions en justice des familles et une perte de confiance à long terme qui pourrait s'étendre aux autres appareils du géant.
Il ne veut pas d'avocat. Le tueur présumé de la tuerie en Nouvelle-Zélande de vendredi souhaite se défendre tout seul. Nous savons maintenant qu'il s'était procuré une arme sur Internet. Le gouvernement envisage le durcissement des lois sur les armes en Nouvelle-Zélande. La rencontre est prévue à 10h tout à l'heure. Le pape François Savoie reçoit au Vatican le cardinal Barbarin. Le plus haut dignitaire catholique français souhaite lui présenter sa démission. Et ce, après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis il y a 2 semaines pour non-dénonciation d'abus sexuels d'un prêtre sur mineur. Des transports en commun 21% moins chers pour les femmes. L'expérience a lieu aujourd'hui en Allemagne à Berlin. 21% moins cher. Cela correspond à l'écart de salaire moyen constaté entre les femmes et les hommes en Allemagne. L'initiative vient de la société de transport en commun de la capitale. Elle est publique. Notre correspondant Ludovic Piétenu a échangé à ce propos avec des voyageurs.
Les réactions sont globalement positives, l'offre est bien accueillie.
Évidemment, c'est symbolique, c'est qu'une journée, mais quand même, ça peut faire parler du sujet. Je trouve ça cool comme geste.
Alina, comme d'autres usagères des transports en commun berlinois, ont bien conscience, comme le dit ici Rebecca,
It's not solving the problem,
que ça ne règle pas le problème et que de façon plus générale, ça devrait être beaucoup moins cher de prendre le métro. Le train entre en gare, cette fillette tire sa maman par la manche.
Si c'est ça la norme aujourd'hui, alors ça devrait être ce tarif tout le temps, pas juste un jour. C'est injuste.
Catherine, plus âgée, partage cet avis et veut des abonnements moins chers pour les femmes. Une acceptation de cette inégalité salariale qui révulse Martina.
Dans une étude aux yeux des jeunes filles allemandes, l'image de la femme idéale, c'est celle des années 50. En termes d'émancipation, c'est un retour en arrière. Certaines filles prennent les droits qui existent comme acquis et sont même prêtes à retomber dans un rôle de jolie femme et d'objet.
À ces 21% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, on peut ajouter cette autre donnée de l'Allemagne aujourd'hui. Les femmes perçoivent une pension de retraite 53% inférieure à celle des hommes.
Et ajoutons qu'en France, l'écart de salaire entre femmes et hommes est de près de 24%, tout salaire confondu. Un temps sec et des températures fraîches s'installent de nouveau sur la France. Pas mal de nuages ce matin sur les 3/4 du pays. Comptez 5 degrés à Besançon, 8 à Paris, 11 degrés à Perpignan. À 8h40, nous vous retrouvons Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées consacré à la Syrie ce matin. Oui. 8 ans après le début de la guerre en Syrie, c'est l'heure des bilans et de la difficile reconstruction.
Oui, tout a commencé, vous en souvenez, le 15 mars 2011 à Deraa, dans le sud du pays, après qu'un groupe de gamins ont été sauvagement torturés pour avoir tagué des slogans favorables aux printemps arabes. Les premières manifestations avaient lieu pour réclamer plus de démocratie. Dans le Figaro Vox, Stanislas Poyer rappelle les chiffres 370 000 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, parmi lesquels plus de 112 000 civils, dont 21 000 enfants et 13 000 femmes. 3 millions de personnes ont été blessées, dont 1,5 million vivent aujourd'hui avec un handicap permanent lié à la guerre et 86 000 d'entre elles ont perdu un ou plusieurs membres. 13 millions de Syriens ont été déplacés sur les 23 millions d'habitants que comptait le pays en 2011, dont 5,6 millions sont répartis dans les pays voisins de la Syrie et notamment 3,6 en Turquie, pays qui accueille le plus grand nombre de Syriens. Le Liban, avec ses 4 millions de citoyens, accueille 1,5 million de réfugiés sur son sol. Le coût des destructions dues à la guerre est estimé par l'ONU à près de 400 milliards de dollars. Logements détruits dans des villes rasées par les bombardements, mais aussi les routes et infrastructures publiques et sanitaires sont touchées. À Deir ez-Zor, par exemple, 79% des infrastructures médicales ont été détruites. Après 8 années d'un conflit qui a amputé le pays de la moitié de sa population, Bachar al-Assad reste au pouvoir. Dans un contexte de désenchantement de son propre camp, c'est maintenant une guerre économique qu'il doit mener, résume Benjamin Barthes dans Le Monde. Son enquête porte sur Alep, la deuxième ville du pays. Cerné par les ruines, écrit-il, rongé par les pénuries, isolé du reste du pays, Alep se languit. Dans le camp des partisans du régime, on déchante. On nous dit qu'on a gagné la guerre, mais où sont les fruits de la victoire? Quel avenir nous prépare-t-on? Ce doute, exprimé par un homme d'affaires qui a insisté pour rester anonyme par crainte des autorités, reflète l'opinion générale. Et faute de finances pour lancer un vaste plan de reconstruction, la majeure partie de l'est de la ville, détruite par des des mois de bombardements aériens, reste un champ de désolation. C'était la zone rebelle. Les bailleurs habituels des plans de reconstruction à travers le monde, États-Unis et Union européenne, conditionnent leur aide à une transition politique. Pour la géographe Leïla Vignal, il est inconcevable de financer un régime qui n'a aucune intention de faire revenir les réfugiés ou de libérer ses prisonniers et qui n'offre aucune garantie de transparence sur l'usage des fonds. Concernant les sanctions imposées par l'Occident et le blocus pétrolier de Washington, Jihad Yazighi, rédacteur en chef de The Syria Report, un site d'information économique, suggère un assouplissement graduel en échange de concessions de Damas sur la question des réfugiés et des prisonniers. L'expert relève que si l'impact des sanctions est négatif, leur rôle dans la catastrophe économique actuelle est relativement faible. Les principaux responsables de la destruction du pays restent l'aviation syrienne et son homologue russe qui ont anéanti la moitié d'Homs, Alep et Deir ez-Zor, ainsi que des dizaines de villes plus petites. Les États-Unis, avec la destruction de Raqqa, et la Turquie qui a facilité le pillage de la zone industrielle d'Alep, ont aussi une part de responsabilité. Et puis d'autres facteurs continuent de jouer, comme la dépréciation de la livre syrienne et l'omniprésence des réseaux de corruption du régime. Les puits d'hydrocarbures situés dans des zones contrôlées par les Kurdes ne retrouveront leur niveau de production d'avant la guerre que dans de longues années. Et 70% des revenus générés par les mines de phosphate syriennes ont été cédés à une compagnie russe, un cadeau fait au chef du Kremlin en contrepartie du sauvetage de Bachar al-Assad. Éric Marty rappelle que la ligne de front à Alep passait par le souk médiéval. Sur le site AOC, l'écrivain souligne la différence entre les quartiers ouest d'Alep, resplendissants, intacts, luxuriants, et les quartiers rebelles de l'Est, qui eux n'offrent toujours pas figure humaine. Le souk est ce point de division entre la destruction et la vie insolente. Ces souks morts, détruits, incendiés, vidés. Cette mitoyenneté de la mort et de la vie est étrange, observe-t-il, lorsqu'on regarde des photos ou des vidéos d'Alep, l'inanimé est plutôt ce qui règne à l'ouest dans l'immobilité, l'ennui de la paix, du calme, de la richesse. Et l'animé est ce qui règne à l'est dans les ruines où fugitivement se voit encore par le souvenir, le mouvement des corps fuyant une explosion. Comme s'il y avait un lien vital entre la destruction et l'animé, comme si la violence extrême avait créé dans cet endroit du monde, comme partout où elle s'exerce, un espace où la ruine est souveraine et semble marteler que l'événement dure encore au-delà de sa clôture, au-delà de tout. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, Boeing versus Airbus.
Et oui, côté américain, la course est interrompue, relancée, puisque le crash en Éthiopie est le deuxième accident en 5 mois sur un des avions emblématiques et best-seller de Boeing, le 737 MAX. Côté européen, là je le dis, même si lui ne s'est jamais écrasé, c'est l'avion géant d'Airbus, la 380, qui est en difficulté commerciale. La fin de sa production a été annoncée en février. Ainsi, depuis quelques mois, les deux géants du duopole Airbus-Boeing, plus que jamais dominants sur le plan industriel, doivent aussi faire face à de nouveaux doutes pour Boeing et les autorités américaine, des doutes concernant la certification, leurs pratiques. Alors, course aux places et aux moteurs, certains ont-ils voulu aller trop vite? On voit ça avec vous, Philippe Cauchy. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone depuis Montréal. Vous êtes le rédacteur en chef d'Info Aéro Québec. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre, hein, pour pas tout mélanger. En ce qui concerne d'abord Boeing et puis le 737 MAX, donc depuis ce week-end, c'est officiel. La ministre des Transports éthiopienne, Dagmawit Moges, déclare qu'il y a des similarités claires entre le crash éthiopien et puis celui indonésien de la Lion Air en octobre dernier. Ce qu'on pourrait dire, c'est que depuis ce week-end, il y a donc des doutes sur la conception, mais aussi la certification du logiciel anti-décrochage. Est-ce qu'on peut l'affirmer selon vous?
Ce qu'on présent, tout pointe dans la direction, parce que quand même les deux accidents sont quand même exceptionnels, les conditions semblent les mêmes, les conditions d'accident semblent les mêmes, alors vous savez, c'est quand même relativement rare de nos jours des accidents. Deux accidents sur un même modèle dans à peu près les mêmes circonstances et maintenant l'étude des boîtes noires semble le montrer. on va vers un accident qui se reproduit deuxième fois.
D'accord, donc ça c'est pour la similarité. Et ensuite je disais depuis ce week-end, puisqu'il y a eu hier deux articles dans le Seattle Times et le Wall Street Journal qui mettent en cause également la question de la certification de ce logiciel MCAS, donc anti-décrochage spécifique, une certification qui est complaisante ou qui est liée à l'externalisation des procédures depuis quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est délicat. Il y a une chose qui est sûre, c'est que des choses ont été certifiées trop rapidement. Pour en arriver à la répétition d'un problème comme ça, d'un problème si grave, les choses ont été bâclées pour une raison ou une autre. Et tout, à mon avis, ça pointe vers une accélération afin de rattraper un concurrent. Et on va se retrouver dans ce genre de course effrénée de plus en plus.
Et alors, quand vous dites rattraper un concurrent, clairement, il s'agit du concurrent d'Airbus. C'est l'A320, A320 Neo, c'est ça. Son premier vol commercial chez Lufthansa, c'était le 25 janvier 2016. Et je crois que trois jours après, c'était le premier vol du 737 Max. Il s'agissait à l'époque, ou encore aujourd'hui, de se marquer à tel point, disons à la culotte.
Oui, parce que Boeing n'avait pas l'intention de lancer le Max. Boeing, depuis longtemps, a l'intention de passer à autre chose, à un avion totalement neuf. Ça, c'est quand même, malgré tout, le 737 date de 1967. Bon, il ne reste d'original à peu près que les fuselages, mais quand même. Et certainement que Boeing aurait continué encore avec l'ancienne version, le Next Generation. Et le fait que Airbus ait décidé d'aller récupérer les moteurs Pratt & Whitney du C-série de Bombardier, de les placer sur un A320 pour en faire le A320 Neo, a bousculé Boeing dans ses plans. Et alors, il y a eu certainement une question de rattrapage dans les délais plus courts. Et la grande différence entre les deux, c'est que si dans le cas de l'Airbus A320, la remotorisation était une chose relativement simple et facile parce que l'aile est relativement haute et laisse un assez grand dégagement, dans le cas du Boeing 737, ce n'est pas du tout la même chose. L'aile de l'avion est en basse et déjà l'installation des CFM il y a plus de 30 ans en remplacement des moteurs Pratt & Whitney avait déjà demandé un grand travail.
Oui, parce que c'est ce fameux 737 qu'on pourrait dire court sur pattes, hein, dont le ventre touche quasiment le sol. Alors justement, là, c'est cette question du remplacement des réacteurs, d'abord sur la 320 avec des réacteurs plus puissants, on pourrait le dire, et moins gourmands, si c'est un peu ça. Et puis la même chose qui a été faite sur le Boeing 737 pour en faire la version Max. Est-ce que ça témoigne d'une course justement aux places, ou une course à quoi? Au moindre carburant? À quoi est-ce que c'est dû?
Bon, c'est une course à l'optimisation des modèles. Donc, un nouveau modèle. Parce que vous savez, dans l'aviation, tout tourne autour du moteur. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'avion. C'est aussi simple que ça. Là, donc, Airbus décide d'aller utiliser ce nouveau moteur de Pratt & Whitney qui a été conçu pour le C-Series. Il le place sur l'Airbus. L'Airbus devient à ce moment-là plus économe. Et Boeing doit suivre parce que c'est une question de marge et d'efficacité et de coût de revient. Et Boeing n'avait pas le choix. Mais la seule différence, c'est que pour adopter le moteur, c'était toute une affaire sur le 737. Et on se retrouve à ce moment-là à courir pour ne pas être trop en retard sur l'autre.
Ouais. Et donc là, on voit que la plupart des pays, en tout cas majeurs, ont interdit de survol leur espace aérien au 737 Max. Boeing a annoncé ce week-end que sous une dizaine de jours, il allait ajouter un correctif à ce logiciel. Il continue la production de Boeing 737 au rythme de 52 par mois. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se sent pas en difficulté et qu'il disons que la course est toujours bien active, quoi?
La course est toujours là. C'est à souhaiter que le problème n'est qu'un problème informatique, donc qu'il puisse se régler relativement rapidement, simplement par une reprogrammation. et que ça ne soit pas une question de problème structurel à l'avion, parce que là, on parlait vraiment d'une catastrophe. Parce que il faut produire ces avions au rythme de 50 par mois, il faut les livrer. Si c'est une question d'informatique, on peut continuer pendant un mois et demi, deux mois à produire et après corriger. Mais si c'était par malheur autre chose que de l'informatique, on se retrouvait dans un autre cas de figure totalement différent.
Et Boeing pourrait perdre beaucoup puisque Airbus possède déjà, je crois, 60% du marché de ses moyens courriers, c'est ça?
Oui, oui, dans ce domaine-là, les 737 n'a plus sa prévalence qu'il a eu antérieurement. Et au rythme de plus de 52 avions par mois, vous prenez rapidement du retard. Même si Airbus ne pourrait pas compenser et augmenter la production de façon importante, il faut bien comprendre, vous savez, déjà, Airbus est à un peu plus de 52, donc il est au maximum. Il y aurait des conséquences sur les livraisons de Boeing, sur les ventes, naturellement sur les profits.
Ouais. Alors là, on est sur ce segment des moyens courriers qui commence à avoir des assez longs rayons d'action, on pourrait dire. Autre chose, là, il n'y a pas eu de crash. Je le redis, c'est important, mais c'est la fin de l'Airbus A380 qui a été annoncé, qui a été lancé il n'y a pas si longtemps. Finalement, Airbus avait déjà ralenti la cadence. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? On est 50 ans après le 747. Est-ce que c'est tout simplement la fin des gros porteurs, que ça n'a pas marché commercialement?
C'est que simplement, les gros porteurs a eu son heure de gloire. Le 747, depuis longtemps, est un avion relativement du passé. Il a été remplacé par les bimoteurs. Le 747 a été finalement mis au rencard par le 777, donc une question d'efficacité, capacité quasi équivalente, mais avec un avion qui n'a que deux moteurs. Et c'est pas une question de l'Airbus, c'est une question de marché. Maintenant, on réalise plus de vols point à point à partir d'aéroports desquels on ne parcourait pas des grandes distances par rapport à avant. Si on se retourne 40 ans en arrière, vous traversez l'Atlantique, il y avait un certain nombre d'aéroports pour quitter les États-Unis ou l'Europe et pour aller de l'autre côté de l'océan Atlantique, vous savez. Maintenant, vous avez une kyrielle de vols auxquels on n'aurait jamais pensé, genre Ottawa, Bordeaux, ou peu importe, sur des avions plus petits. Et on n'est plus du tout dans la limite. Donc, les gros porteurs avec des gros hubs, où tous les gens se rendent à un endroit pour prendre un très gros avion pour se rendre à un autre endroit, c'est terminé. Donc, et ça ne fait pas seulement l'Airbus A380, c'est aussi le 747. Le 747, il en reste à peu près 500 et quelques en service dans le monde sur les plus de 1500 qui ont été produits. Et sur ces 500 et quelques, la majorité sont des avions cargo. Il reste à peu près 200, 250 maximum 747 de passagers dans le monde.
Ouais, c'est pour ça que Guy Dutheil, dans un grand article dans Le Monde au sujet de la fin de la 380, parlait d'un avion mal né et mal aimé des compagnies aériennes. Si on vous écoute, en fait, il a été plutôt mal calibré pour la configuration du trafic aérien et des aéroports aujourd'hui. C'est un peu ça?
Oui, il a été... Honnêtement, c'est un avion politique. C'était faire plus gros que Boeing 747, en principe. Alors que déjà, au moment où l'Airbus était lancé, le 747 était déjà dans son repli, vous savez. Le glas du 747 et des gros porteurs quadrés et actés, ça a été l'introduction en mai 1995, l'entrée en service du Boeing 777.
Et alors si on résume sur la course aujourd'hui, avec ces doutes d'un côté sur le 737 moyen courrier Airbus qui pourrait revenir en force, et puis cet abandon de la 380, qui est-ce qui tiendrait la tête? Je crois qu'au dernier salon aérien de Farnborough, il y avait à peu près autant de commandes pour l'un et pour l'autre en nombre d'avions.
Oui, Boeing a une certaine reprise parce qu'il est quand même très fort sur le secteur des gros porteurs, vous savez, les avions qui finalement génèrent des ventes par unité et des profits. Airbus a toujours sa force qui se renforce au niveau de la famille A320. Boeing a la difficulté à rattraper sur ce segment-là. Donc, il y a un peu un peu chacun des deux se retrouvera sur deux marchés différents. Là, ça va être de voir quelle va être finalement la cause profonde du problème du MAX de Boeing. Est-ce qu'on souhaitait pour Boeing que c'était un problème d'informatique? Il y a eu une négligence, il y a dû avoir une trop grande certification et complaisance quelque part. Il y a faute malgré tout. Mais, vous savez, de nos jours, on se retrouve avec une concurrence exacerbée. Et on n'est plus à l'époque de McDonald's, Douglas, de Boeing et de Lockheed, où c'était plus une concurrence d'ingénieurs. Maintenant, on est rendu avec des concurrences de vendeurs et de vente plus qu'autre chose.
Eh bien, écoutez, ce sera à suivre également cette question, effectivement, du coup de pouce ou complaisance politique. Rapport, en tout cas préliminaire, dans 10 jours pour le crash de la Ethiopian Airlines. Merci beaucoup, Philippe Cauchy, rédacteur en chef. Merci d'Info Aéro Québec. Et puis, bonne nuit au Québec. Merci.